C'est du 22 au 24 mars que se tiendra le 42e congrès de l'Institut des troubles d'apprentissage. On avait d'ailleurs reçu plus tôt cette année la directrice générale de l'organisme. Et que vous ayez l'occasion d'y être ou pas, on aimerait vous présenter un aspect fondamental qui sera discuté, notamment dans le cadre de ce colloque, l'accommodement raisonnable lorsqu'une personne présente des troubles d'apprentissage. Donc, pour bien nous présenter cette situation, on reçoit Joanne Magloire, qui est agente d'éducation et de coopération à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. Bonjour, Joanne Magloire.
Bonjour.
Content que vous soyez là de nouveau.
Ça me fait plaisir.
Donc, en quoi, et en fait, je vous lance la question tout de go, là. En quoi les étudiants présentant des troubles d'apprentissage sont-ils lésés dans le contexte des établissements d'enseignement?
En fait, où les étudiants en situation d'apprentissage, en trouble d'apprentissage, pardon, peuvent être lésés, c'est au niveau des services qui ne reçoivent peut-être pas ou qui sont inadéquats finalement et qui ne répondent pas à leurs besoins.
C'est tout simple. Et donc, vous parlez des services de manière générale, puis aussi peut-être les services dits spécialisés, c'est ça?
Exactement.
OK. C'est quoi les devoirs des établissements d'enseignement envers les élèves qui présentent ces troubles d'apprentissage?
En fait, vous dites les devoirs, puis j'irai même un peu plus loin en parlant d'obligations.
Aha.
Donc, les établissements d'enseignement ont des obligations envers les élèves, justement, qui ont des troubles d'apprentissage. L'obligation d'accommoder ces étudiants et d'offrir des services. Et vraiment de faire une bonne évaluation finalement des besoins de ces étudiants et d'offrir des services finalement exempts de discrimination.
Donc, encore une fois, c'est toujours clair, il faut prendre en considération les besoins réels des personnes et voir si la machine peut s'organiser pour donner les services.
Oui, la machine doit s'organiser pour
elle
offrir
doit, oui.
exactement
c'est ça.
Ces services.
Et c'est important de rappeler qu'il y a quelque chose de très, très structurant, un avis que vous avez formulé en 2012. Je peux le lire là, pour les gens qui nous écoutent. Vous pouvez le repérer ensuite sur le web parce que, bon, je trouve que cette émission-ci est presque devenue web libre. Je suis désolé, mais donc, l'avis que vous avez formulé est très important. C'est l'accommodement des étudiants et étudiantes en situation de handicap dans les établissements d'enseignement collégial. Donc, c'est en 2012. C'est très important. Rappelez-nous, c'était quoi les grandes lignes de cet avis-là?
Oui, en fait, c'est parce qu'on recevait beaucoup de demandes, de plaintes, et on voyait qu'il y avait une problématique. Donc, on voyait l'émergence, justement, des étudiants, notamment ceux qui ont des troubles d'apprentissage, qui voulaient s'inscrire au collégial, recevoir des services, etc. Mais le milieu n'était pas nécessairement préparé à cette émergence-là.
Particulièrement collégial?
Collégial et, disons, le post-secondaire. Au préscolaire, primaire, il y a déjà aussi la loi sur l'instruction publique, des politiques d'adaptation scolaire, etc. Mais au collégial, ils n'ont pas ces lois-là.
Ah oui, c'est vrai, rappelons, c'est vrai que ce grand droit à l'éducation, là, qui est même présent dans la Déclaration des droits de l'homme, etc., dans l'appliquer... ça concerne pas nécessairement les études postsecondaires, hein, c'est ça?
Exactement. Mais par exemple, il y a la charte.
Mais la charte au Québec, oui.
La charte au Québec et même la charte canadienne et d'autres éléments plus au niveau international. Et on a dû rappeler au milieu collégial, justement, la large portée de notre charte québécoise, mais aussi qu'ils avaient les mêmes obligations. Par exemple, à l'article 12 de la charte, qui dit qu'on doit offrir des services où les services offerts au public, ça correspond et ça comprend les services qu'offre le milieu collégial.
OK. Donc, si je comprends bien ce que fait cet avis-là, ce que démontre cet avis-là, c'est que peu importe le niveau où on doit étudier, il faut offrir les accommodements raisonnables.
Exactement, parce qu'il y a l'article 10, le droit à l'égalité, et c'est bon pour tout le monde. Donc, c'est bon pour à tous les niveaux d'enseignement, exactement.
OK. Entrons maintenant dans le cœur. Comment ça se passe là, dans la machine, comme je disais plus tôt? Dans votre avis, vous parlez bien sûr de l'organisation et du financement des services. On le sait tous, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Est-ce qu'il existe aujourd'hui, de fait, des bons programmes là, pour assurer les services au niveau collégial puis à l'université? Est-ce que vous avez pu apprécier ça?
Oui, vraiment, le postsecondaire a été très proactif, et a réagi rapidement. Et on avait fait une table de travail, justement, avec tous les acteurs là, du milieu postsecondaire. Et c'est bien de constater, justement, l'évolution du milieu. Donc, ils ont essayé de justement de se doter d'outils pour mieux évaluer les étudiants, mieux les cibler.
Okay.
Et avoir l'important pour nous dans cet exercice-là, c'était vraiment d'avoir une compréhension commune de cette obligation d'accommoder.
Okay.
Et je pense que, bon, tout n'est pas rose, mais je pense qu'on a vraiment évolué dans ce sens-là. Donc, on a une meilleure compréhension de l'obligation et le postsecondaire s'est vraiment mis en marche pour offrir tous les services finalement nécessaires et faire une bonne évaluation des étudiants là, qui sont sous leur toit.
OK. Mais ça, c'est évidemment l'évaluation. Pendant que les gens nous écoutent, là, j'ai l'impression qu'ils doivent se dire, oui, mais OK, les troubles d'apprentissage. Bon, moi, j'ai un enfant à qui on a dit, bon, il présente un trouble d'apprentissage. Mais pour les gens qui nous écoutent, là, c'est quoi l'étendue des troubles d'apprentissage? De quoi on parle exactement?
Bien, les troubles d'apprentissage, c'est très une étendue très large. Donc, par exemple, on peut penser à des enfants qui ont une dysphasie, dyspraxie, dysorthographie,
okay.
etc.
Oui, ça c'est des mots quand même qu'on entend depuis peu. Hein. Dysorthographie,
oui.
Ça veut dire, vous avez peut-être déjà entendu, là, la dyslexie, j'ose dire, était très populaire, là, c'est un peu plus connu, mais la dysorthographie, qu'est-ce que c'est? Vous n'êtes pas orthopédagogue, là, je m'excuse, mais pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est exactement?
Ben, en fait, c'est au niveau justement de l'orthographe. Donc, c'est tous ces troubles-là, en fait, c'est dans la façon d'analyser, traiter l'information. Donc, ils ont une façon de traiter l'information différemment.
Okay.
Et chaque trouble a sa façon d'interpréter l'information qui leur est propre.
OK.
Donc, en gros.
Donc, on a toute notre manière d'apprendre. Ça fait peut-être 40 ans que les pédagogues le disent. C'est le fun que la commission nous le rappelle maintenant. Mais on revient au service. Donc, tous ces troubles-là sont possibles, des manières différentes d'apprendre, d'écrire, etc. Mais les services qui y a à côté là, pour pallier ces handicaps-là, de quoi on parle exactement? Puis est-ce qu'ils sont bien financés? Je sais que c'est trois questions. Là, mais...
Oui, je vais répondre du mieux que je peux.
Je suis désolée.
Non, ça va. Bon, en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est vraiment du cas par cas. Donc, faire une bonne évaluation, c'est sûr qu'on peut regrouper des différents troubles d'apprentissage ensemble, mais il n'y a pas de solution unique. Il faut vraiment prendre le temps de faire l'évaluation cas par cas de chaque étudiant, d'évaluer leurs besoins et d'essayer, dans le fond, l'obligation d'accommodement, ce que ça dit, c'est d'essayer de trouver des solutions, des moyens pour pallier au handicap. Donc, c'est ça qu'il faut retenir de tout ça.
Ouais.
Au niveau financier, surtout pour les troubles d'apprentissage, les gens, avant de parler de contraintes excessives, de coûts financiers, ben, on voit que pour les troubles d'apprentissage, il y a plusieurs mesures qui ne coûtent pas finalement beaucoup d'argent à mettre en place. Donc, donner plus de temps, par exemple, à étudiants, donner les leçons d'avance, préparer des questions pour l'enseignant, etc. Des fois, c'est surtout dans l'organisation des services qui fait que pour certains établissements, ça devient lourd à gérer parce que des fois, on a des organisations de services puis il faut que l'enfant ou l'étudiant cadre dans cette organisation-là au lieu de voir à l'inverse planifier l'organisation des services en fonction des besoins des étudiants.
Bien, j'ai même vu d'autres pratiques aussi. Là, vous parlez de ce qui coûte pas cher, donner plus de temps, etc.
Mm-hmm.
Je pense, entre autres, il y a des profs qui ont fini par accorder le tiers-temps à tout le monde, parce qu'il peut avoir effectivement des besoins évalués, très évalués, mais il peut avoir aussi toutes sortes de situations, des enfants qui sont un peu plus anxieux, etc., etc. Est-ce que vous trouvez que c'est une pratique qui va dans le sens des accommodements raisonnables?
Oui, tout à fait. C'est une belle approche inclusive à avoir et à développer. Par contre, j'ai toujours une petite mise en garde par rapport à ça. Il ne faut jamais oublier quand même l'évaluation cas par cas de l'étudiant. Donc oui, c'est des bonnes façons d'approcher, de mettre en place, des bonnes pratiques à mettre en place, mais il ne faut pas oublier quand même qu'on a une obligation légale de regarder quand même le cas par cas.
Parfait. Joanne Magloire, écoutez, j'ai une colle pour vous. On est parents, supposons, en fait, c'est des cas que j'ai croisés, on est parents, il est inscrit au dossier, tel problème, il y a un plan d'intervention pour l'élève ou même l'étudiant. Est-ce que ça peut lui être préjudiciable si un jour il veut aller en sciences, en biochimie, à McGill, par exemple? Est-ce que le fait d'avoir au dossier la présence de troubles d'apprentissage, ça pourrait éventuellement nuire?
Ben, en fait, ça ne devrait pas du tout. Si la personne a réussi son DES, son diplôme d'études secondaires et poursuit sa scolarisation avec des moyens qu'on a mis en place pour répondre pour pallier à son handicap, puis il réussit, il y a les notes, il y a tout ce qu'il faut, alors il n'y a aucun problème pour cet étudiant-là de continuer ses études.
OK. Mais il existe des recours, si jamais... c'est compliqué, là, c'est une grande question que je vous pose. Mais supposons qu'on sent que au dossier, en fait, la présence au dossier de telle note ou telle déficience, on nuit l'acceptation d'une candidature. Est-ce qu'on a des recours?
Tout à fait. Ben, si on pense qu'on en a été discriminé par rapport justement au handicap ou les accommodements qu'on a reçus, ben, on peut toujours porter plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
OK. Je vais redonner tantôt le site web, mais je me garde une gêne pour l'instant qu'on en a mis à peu près 18 ou 30 secondes là, tout au cours de l'émission. Écoutez, donc, si on comprend bien, peu importe le niveau scolaire où se dirige votre enfant, il a droit à des accommodements raisonnables, mais il faut les demander, hein? C'est ça, hein? C'est ça l'important, hein?
Ben oui, il faut prendre connaissance de ses droits. Il faut le demander, prendre le temps de s'asseoir avec justement les différents acteurs autour d'un plan d'intervention, les inscrire dans un plan d'intervention pour s'assurer que l'intérêt de l'enfant est respecté, le meilleur intérêt de l'enfant est respecté. Donc ça, c'est très important. C'est toujours quand je parle à des parents, je leur précise ça, de prendre part à ce plan, à cette médiation avec les différents acteurs, reconnaître l'expertise de chacun pour faire un bon plan, pour faire une bonne évaluation des besoins des étudiants.
OK. Donc, juste qu'on revienne maintenant, parce qu'il y aura le 42e congrès de l'Institut des troubles d'apprentissage qui se tiendra du 22 au 24 mars, là, auquel vous allez participer. Vous allez vous adresser à qui? À des professeurs? À des parents? À qui vous allez parler?
Oui, pour participer presque chaque année à ce congrès annuel, c'est très diversifié. Mon public, quand je donne des conférences au congrès annuel de l'Institut des troubles d'apprentissage, parce que je peux retrouver dans la salle, des fois, il y a des parents, des enseignants, différents intervenants dans le milieu scolaire, des gestionnaires aussi. Mm-hmm. Donc, j'ai vraiment un public très diversifié. Puis
lesquels réagissent mieux? Juste comme ça, ça m'intéresse, je suis curieux.
Ah, ben, je pense que c'est vraiment par souci d'avoir une vision commune, un vocabulaire commun, une meilleure compréhension de l'obligation d'accommoder. Donc, je ne peux pas dire si d'autres réagissent moins bien. Je pense que tout le monde ressort de cette formation, présentation avec des outils et une meilleure compréhension, j'ose l'espérer, là, de l'obligation d'accommoder.
OK. Donc, si on veut en savoir plus sur le 42e colloque auquel vous participez, Mme Magloire, on peut se rendre sur le web. Donc, je vous l'épelle à l'instant, instituta.com, donc instituta.com, /congrès/congrès-2017. On rappelle aussi qu'on peut trouver plus d'informations sur la commission, n'est-ce pas, Mme Magloire?
Oui, tout à fait. Si vous voulez, je vous donne le site à www.cdpdj pour Commission Droits Personnes Droits Jeunesse.
Donc, le site de la Commission des droits de la personne fourmille de toutes sortes de trucs et astuces, mais surtout, explique clairement ce que sont les accommodements raisonnables, puis vous accompagne. On a souvent parlé de cette portion du site, le guide.
Oui. Allez-y. C'est notre guide virtuel, justement, pour aider les gestionnaires lorsqu'ils reçoivent des demandes. On a fait un guide qui explique les différentes étapes à suivre, finalement, quand on reçoit une demande d'accommodement.
Parfait.
Et apprécié du milieu.
Très bien. Donc, Mme Joanne Magloire, qui est agente d'éducation et de coopération à la Commission des droits de la personne, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation.
Bon congrès.
Merci.
Au revoir.